Chapitre 30. Vincent Van Gogh. Fixe tes vertiges. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Mona avait subtilisé l'enveloppe en craft dans laquelle reposait une vieille coupure de presse au sujet de Colette. Sans saisir grand-chose de ce que racontait l'article, la fillette s'était sentie suffisamment amère à sa lecture pour n'avoir pas souhaité en percer la substance. Elle voulait effacer cette impression de sa mémoire. Mais les réminiscences de mamie s'étaient réveillées en elle d'une manière trop bouleversante pour qu'elle décide de les oublier. Le mystère de sa présence lors des séances d'hypnose et la découverte, non moins fantastique, d'objets lui appartenant à la brocante de son père s'étaient combinés pour déverser en elle une vague alarme que sa volonté ne contenait plus. Quelquefois, seule à la boutique, elle avait tenté de se glisser à nouveau dans la cave et d'y dérober une autre archive. Mais bien davantage qu'une transgression d'enfant joyeuse dans son irrespect des règles, cette idée lui apparaissait comme une plongée dans l'affliction. Elle renonçait donc. Un dimanche, en fin d'après-midi, au chagrin de ne pas en savoir davantage sur cette femme disparue, s'en substitua un autre, beaucoup plus intraitable. Le chagrin de ne pas la voir à ses côtés, elle tout entière, le manque de sa voix, de son regard, de ses rires salvateurs et de ses gestes les plus anodins, que la béance était grande soudain. Mona, dans l'arrière-boutique où elle faisait ses devoirs à même le sol, entre les falaises de carton, sombra en larmes. « Me voilà bien, » se dit-elle. « Je vais me faire gronder d'avoir pleuré. » C'est étonnant comme l'enfance peut se sentir coupable de ses tristesses les plus innocentes. Aussi s'essuyait-elle les joues tant qu'elle pouvait avec le pli du coude, inondant le coton de sa chemise mauve. Puis elle ressentit le besoin de fouiller tous les recoins de la brocante pour réunir des traces de sa grand-mère. Elle se leva, s'enfonça dans la pénombre. Elle se posta devant la trappe, se baissa pour l'ouvrir. Mais là, au lieu d'en soulever les lourds volets, elle demeura agenouillée et son sentiment de deuil l'emporta dans un nouveau souvenir. Mona avait 3 ans. Sur les genoux de Colette, elle regardait des boîtes et encore des boîtes, petites et parfois précieuses, qu'elle ouvrait, fermait, explorait. Comme c'était drôle, ces coffrets et couvercles qui révélaient des objets par dizaines, des sachets jaunis et odorants, des photographies, des bijoux et des riens. Jusqu'à ce que, de l'une d'elles, Mona sorte une médaille plaquée or sur laquelle se découpaient une vierge et un enfant. À son revers était gravé un prénom, Colette. « Ça, ma chérie, ça ne représentera plus jamais rien pour moi, » confia l'aïeul, avant de montrer le série de gommiers qui pendait à son cou et d'ajouter « Voilà ce qui compte. » Et un jour, ce sera pour toi. » Mona ressentait les mains de sa grand-mère sur ses épaules, tellement bienveillantes, tellement douces. Les paupières fermées, l'enfant pleurait et pleurait encore, incapable de quitter ce fantôme revenu d'entre les morts. Elle resterait là, devant cette trappe, dans la fibre irréelle de cette affection retrouvée, à genoux, à jamais. Quand elle rouvrit les yeux, ce n'était plus seulement des mains, mais des bras qui enlaçaient Mona, immense et tendre. « Cesse tes larmes, ma petite fille, je suis là, » lui glissa son père. À l'approche du musée d'Orsay, Mona traînait sa mélancolie. Parce qu'elle n'osait pas parler de sa grand-mère à Henri, elle lui demanda pour contourner le sujet tout en l'abordant, s'il croyait qu'on pouvait retrouver ce qu'on a perdu pour toujours. Et Henri, perplexe, crut à tort qu'elle évoquait sa peur de perdre totalement la vue. Il réprima une grimace douloureuse. « Rappelle-toi le tableau de Philippe de Champaigne, » dit-il pour la rassurer. Mona se rappela donc qu'il fallait toujours croire au miracle. Mais cela ne la réconforta guère. Cette leçon du Louvre, qui lui avait servi par le passé, n'était d'aucun secours en ce moment précis. Elle aurait voulu que son grand-père soit lui-même, là, tout de suite, auteur d'un prodige, qui puisse apporter la preuve qu'en effet, les miracles sont possibles. Elle savait que c'était injuste, car un miracle, cela ne se commande pas. Il fallait lui épargner un échec programmé qui les frustrerait l'un comme l'autre. Mais son cœur, encore enfantin, balançant entre la naïveté et une petite pointe d'égoïsme, ne put s'empêcher de l'implorer. « Oh, Dadé, fais un miracle, toi !» Henri sourit en soupirant. « Ne t'avise pas de me le réclamer tous les mercredis, mais pour ce coup-ci, d'accord. » Mona écarquilla les yeux. Alors Henri, d'un geste hiératique, pointa du doigt la file du musée à une trentaine de mètres. Elle comprit aussitôt. Le jeune couple qu'ils avaient photographié quelques semaines auparavant s'y trouvait. Elle hurla de stupéfaction, lâcha la main de son grand-père, se précipita dans les jambes des amoureux devant les grappes des visiteurs et les supplia de ne pas avoir effacé le cliché. « Non !» dirent-ils, eux-mêmes heureux de retomber par hasard sur l'enfant. La photographie était toujours enregistrée dans le téléphone portable. Mona et Henri planant sur le monde entier, solaire. Presque à bout de souffle, la fillette épela une adresse électronique à laquelle l'image fut instantanément expédiée.
« Dadé, Dadé, c'est de la folie, c'est de la folie !»
criait-elle, ivre de joie. « De la folie ? Eh bien, soit, parlons-en, » songea le vieil homme. Le tableau du jour hissait en un format vertical une église rurale sur un parterre d'herbes printanières. Celui-ci formait une sorte de pyramide inversée bordée par deux chemins qui s'écartaient l'un de l'autre presque symétriquement et finissaient par encercler l'édifice. Des coups de pinceau extrêmement visibles traitaient le sentier dans les jaunes et les marrons, des tons chaleureux d'une belle journée. De l'église, perçue légèrement de biais et très ramassée du fait du raccourci, était en réalité figurée l'arrière, c'est-à-dire le chevet avec, de gauche à droite de la composition, l'extérieur d'une chapelle, une abside adossée à un mur pignon, puis une absidiole, le tout parcouru de trois grandes baies, puis de deux plus petites. Dans la profondeur, le clocher en bâtière, c'est-à-dire à deux pentes opposées, dominait l'ensemble. Le ciel sur lequel se découpait ce monument, mêlant le gothique et le roman, se composait de plusieurs bleus, et bien qu'il n'y eût pas de nuages, les touches courbes, circulaires, donnaient l'impression de masses d'air en mouvement. Pourquoi pas un orage, mais plus sûrement le soir qui tombe, d'autant que les deux angles du tableau s'avéraient très sombres. Surtout, au diapason des remous picturaux de l'arrière-plan, les lignes architecturales, faites des toitures, colonnettes d'angles ou corniches, semblaient toutes légèrement vacillées, sinon tanguées, comme si le regard qui se posait sur ce spectacle était alcoolisé. Enfin, bien qu'ils fussent obstrués par l'église, on apercevait vaguement les signes d'un village sur la ligne d'horizon, des arbres, des tuiles oranges. Et puis il y avait cette silhouette de paysanne en robe et couverte d'un chapeau de dos au premier plan, marchant sur le chemin de gauche, et dessiné avec des cernes épais qu'on retrouvait au demeurant un peu partout dans le tableau. Mona était fascinée par la toile, qu'elle examina sans discontinuer toute une demi-heure, jusqu'à la griserie.
« Tu sais, Dadé,
marmonna-t-elle finalement,
quand papa buvait beaucoup de bouteilles, je crois qu'il voyait les choses un peu comme ça. »
Elle mima de la main le déséquilibre, l'aspect flottant de l'église. « N'oublie jamais que tu as un papa merveilleux, ma chérie. Il t'aime, et il a une immense sensibilité. Les êtres doués d'une grande sensibilité s'abandonnent souvent à l'ivresse, parce que l'ivresse aiguise cette qualité. Vincent Van Gogh, par exemple, buvait énormément d'absinthe, un spiritueux surnommé « la fée verte », interdit désormais, mais qui valait moins cher qu'un verre de vin à son époque. Cela stimulait à la fois son génie et sa folie. Et tu as raison, dans ce tableau, les arêtes se courbent, fluctuent légèrement, des couleurs incongrues surgissent. comme cet orangé sur un pan du toit qui devrait pourtant être gris.
Il était malade ?
Vincent était en proie à de nombreux troubles psychiques. Dans ce tableau, on pourrait d'ailleurs interpréter les deux chemins symétriques comme le symbole du dédoublement de son cerveau, parce qu'il n'était plus tout à fait lui-même.
Alors, ça veut dire qu'il était un peu méchant ?
C'est l'absolu contraire, Mona. La folie n'a rien à voir avec la méchanceté. Van Gogh pouvait certes se montrer agressif, mais il était plutôt ce que les médecins appelleraient aujourd'hui un hyper-empathique. C'est quelqu'un dont la sensibilité s'avère si vive qu'il éprouve ce que les autres éprouvent. Il développe, pour tous ceux qu'il rencontre, une affection énorme. Il s'identifie à eux, souhaite fraterniser. Même dans cette modeste silhouette de paysanne à gauche de la composition, tu peux être certaine qu'il a investi toute son âme. Vincent a eu une phrase bouleversante à ce sujet qu'il destina à son frère Théo dans une lettre de 1888. Il disait qu'il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens.
« Oh, Dadé, c'est trop beau. C'est ça notre leçon du jour. Je t'en supplie. »
« Pas si vite. Dis-moi plutôt ce que tu vois dans le tableau qui concrétise démesurément cet amour. » Mona hallucina un pictogramme de cœur dans le parterre d'herbe bordé par les deux routes sur lesquelles s'élevait l'édifice. C'était une jolie idée, certes, mais elle avait désormais suffisamment d'expérience pour distinguer une libre rêverie d'un véritable symbole. Cette vision était assurément une fantaisie. Alors, d'un ton dubitatif, elle évoqua plutôt l'église. Ce n'était pas tout à fait une évidence à ses yeux, car ses parents, surtout sa mère, ricanaient immanquablement avec un dédain ostentatoire quand il était question des valeurs chrétiennes. Mais chez son grand-père, la foi et le respect du sacré étaient des choses trop sérieuses pour être réduites à des moqueries faciles et convenues. Oui, pour Van Gogh, cette église concrétise l'amour. Oh, certes, il n'était pas catholique, mais protestant, originaire des Pays-Bas. Reste qu'il était un fervent croyant. Dans sa jeunesse, il a voulu devenir pasteur pour vivre constamment auprès des petites gens. Cette humilité se perçoit dans sa manière de traiter l'église ici. Il n'en choisit pas la façade d'entrée triomphale, c'est-à-dire le visage de l'édifice, mais son revers, bas et trapu, son chevet. Mona eut un rire intempestif, qui fit râler ostensiblement un visiteur à ses côtés. C'était un jeune garçon, aux allures pédantes de dandy, affublé d'une lavalière qui singeait jusqu'au ridicule la mode du XIXe siècle. L'enfant fit mine de lui présenter ses excuses, les doigts croisés dans le dos. Puis elle demanda à son grand-père de se baisser pour lui chuchoter son impression. Pourquoi cet amusement soudain ? Parce qu'elle avait réalisé que Van Gogh peignait en fait l'arrière-train de ce vénérable bâtiment du XIIe siècle, comme il aurait cadré le postérieur d'une bête allongée plutôt que sa tête.
« Voilà les fesses de l'église !»«
Bigre !» se dit Henri. « Cet enfant a décidément une imagination débordante. » Mais la remarque ne manquait pas d'intuition. Cette perception d'un Van Gogh un peu charivarique lui plaisait. Après tout, la folie n'est-elle pas un grand carnaval avec soi-même ? Il réinjecta néanmoins un peu de gravité. Le tableau est très coloré. Mais Van Gogh n'a pas toujours peint avec une telle palette. Il fréquentait dans sa jeunesse des régions minières, et ses premiers tableaux étaient très charbonneux. Ce n'est qu'à partir de 1885-1886, quand il découvre d'abord Rubens à Anvers, puis les impressionnistes à Paris, et rencontre un certain Paul Gauguin, que sa peinture gagne en éclat. Et en 1890, quand il signe ce tableau à Auvers-sur-Oise, Van Gogh est au paroxysme de cette quête de lumière.
Ça veut dire qu'il était heureux, alors ?
Pas vraiment. Henri marqua un temps d'hésitation. Ou plutôt, si, tu as raison. Il était extraordinairement heureux de peindre. Il lui suffisait d'avoir un pinceau à la main pour être euphorique, chauffé à blanc. Mais vois-tu, le grand écart entre le flamboiement de ses toiles et les malheurs de son existence est devenu légendaire. Après son arrivée à Paris, s'étaient succédé des périodes d'espoir et de déception. Vincent, doté d'un esprit communautaire, souhaita par exemple fonder avec Paul Gauguin une colonie d'artistes. Aussi firent-ils un séjour commun à Arles, dans le midi de la France. Mais cela tourne mal, les disputes s'enchaînent, Gauguin ne supporte plus son camarade, annonce qu'il repart à Paris. Affligé, Van Gogh se coupe un morceau d'oreille avec un rasoir. On l'interne dans une clinique pour les fous. Il en sort quelques mois plus tard, mais son état nécessite une grande attention médicale. Et s'il vient finalement dans cette petite ville d'Auvers-sur-Oise, c'est parce que vit là, à quelques mètres de cette église, un médecin du nom de Gachet qui veille sur lui.
Moi, si j'avais été le docteur, je l'aurais félicité pour ses couleurs bleues surtout.
Il les aimait énormément. Et justement, Van Gogh a pris soin de traiter son ciel avec des bleus profonds dont les vitraux de l'église, d'un cobalt pur, sont l'écho. La pierre du bâtiment se nappe d'éclats violacés. Et puis, tout en douceur, à mesure qu'on balaye l'œuvre du regard vers ses parties inférieures, s'opère une rupture dans la composition.
C'est comme si le ciel était sombre, surtout dans les deux coins du tableau. L'église est un peu plus claire, mais bon, c'est un mélange des deux. Par contre, le chemin au milieu de l'herbe, lui, il est lumineux, on voit que c'est le printemps. Tu comprends, Dadé? C'est le jour et la nuit à la fois.
C'est vrai. Ces deux puissances naturelles antagonistes tiennent ensemble et, simultanément, par la justesse de la peinture de Van Gogh. Mais cette peinture...
Cette peinture, elle manque de solidité,
l'interrompit Mona avec un ton prophétique.
Tu te rappelles quand tu me parlais de Cézanne? Tu me disais que c'était compact. Là, c'est très différent, c'est comme si ça pouvait s'écrouler.
Parce que la touche se déstructure, l'interrompit à son tour Henri. La peinture semble sur le point de se déchirer, à l'image du chemin du premier plan qui se fend en deux directions opposées. C'est tout simplement instable. Figure-toi qu'il y a un poète dont le trajet est étonnamment comparable à celui de Van Gogh. Il s'appelle Arthur Rimbaud. Van Gogh est né en 1853 et mort en 1890. Rimbaud est né et mort exactement un an plus tard. Tous deux ont produit sur une période très brève, avec un même souci d'intensité expressive, dans la relative indifférence de leur époque. Van Gogh ne vendit qu'une toile de son vivant, avant de devenir l'un et l'autre de véritables mythes. Ils ont tous deux entretenu une relation à la fois fertile et toxique, Rimbaud avec Verlaine et Van Gogh avec Gauguin. Et puis la fin de leur vie est horrible et brutale, notamment celle du peintre. Pas même 2 mois après avoir achevé le tableau que tu vois, Vincent mit fin à ses jours d'une balle dans la poitrine. Rimbaud et Van Gogh ne se sont jamais rencontrés. Mais dans son plus célèbre texte intitulé « Une saison en enfer », le poète, sans le savoir, offre la leçon de cette toile.
Et qu'est-ce qu'il dit, Rimbaud?
Il dit « Je fixais des vertiges ».
Ah oui, Dadé,
soupira Mona avec un sérieux d'une maturité inédite.
C'est ça, ce tableau. C'est comme si on avait un peu le tournis. Mais pour toujours.
Tandis qu'il s'éloignait de l'œuvre comme éméché, Mona tomba à nouveau dans les allées du musée sur le regard du jeune pédant à la lavalière. Le garçon prit un air important et lui adressa une moue de mépris. L'enfant ne put cette fois s'empêcher de lui tirer subrepticement la langue.